tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Nous nous pencherons aujourd'hui sur un texte de la Bible qui va nous parler d'un nouveau début. Le premier verset de la Bible dit « Au début, Dieu créa les cieux et la terre. Adam, dont le nom signifie en hébreu « tiré de la terre », est le premier homme. » Tenté par le diable, Adam chute et perd à jamais son statut spirituel. Dieu se révèle dans l'histoire biblique pour annoncer qu'il enverra un nouvel Adam, un fils bien-aimé qui engendrera par la foi de nombreux descendants. Pour ce faire, au moment choisi, Dieu envoie Jésus pour inaugurer un nouveau début pour l'homme. Ce nouveau début prend place sur le bord du Jourdain, lors du baptême de Jésus, l'événement pendant lequel Dieu lui envoie son esprit. Et je vous propose maintenant d'écouter les lectures bibliques, la première étant le livre d'Ésaïe, au chapitre 42, les versets 1 à 7.
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit en lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur. Il ne brisera pas le roseau ployé, il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole. À coup sûr, il fera paraître le jugement. Lui ne s'étiolera pas, lui ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la terre son jugement. Et les îles seront dans l'attente de ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui a créé les cieux et qui les a tendus, qui a étalé la terre porteuse de ses rejetons, donné respiration à la multitude qui la couvre et souffle à ceux qui la parcourent. C'est moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot le prisonnier, de la maison d'arrêt, les habitants des ténèbres.
La lecture suivante est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, les versets 34 à 38. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites. La bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, et Dieu était avec lui. »
Et la lecture écuménique du jour est en Matthieu, chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. « C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répliqua, « Laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. »
Thank you.
Le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai tenu la main, je t'ai formé et je t'ai appelé à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations, disait le prophète Ésaïe. Et Pierre chez Corneille déclarait : Vous savez ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a confié l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Et enfin, Matthieu dans son évangile nous dit : Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, baptême, alliance, onction, nous avons trois mots-clés.
Jusqu'à son baptême, Jésus a vécu une enfance simple, humaine, celle de tous les enfants, dans une famille d'ouvriers charpentiers. On ne sait presque rien de son enfance, à part sa présentation au temple, sa bénédiction par Siméon, puis, à l'âge de 12 ans, ses premières paroles en public dans le temple de Jérusalem, lors de la fête de la Pâque juive.
Joseph et Marie, ses parents, ne retrouvent leur fils Jésus qu'au bout de 3 jours, tranquillement assis au milieu des maîtres, à les écouter et à les interroger. Et tous s'extasiaient déjà sur l'intelligence de ses réponses.
Imaginez l'angoisse de ses parents. Imaginez-vous à la place de Jésus, répondant calmement à ses parents affolés et sûrement aussi fâchés, « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » C'est ici, voyez-vous, la première rencontre de Jésus avec la parole. Puis Jésus retourne avec ses parents à Nazareth, en Galilée, et grandit en force et en sagesse. On n'entend plus parler de lui pendant de nombreuses années.
Jean-Baptiste, lui, vit dans le désert et se nourrit de sauterelles et de miel. Il fuit le monde. Il invite les gens à la repentance. Il les injurie même. Et l'impossible se produit. Les foules viennent à lui. Le désert se peuple d'hommes et de femmes qui ont soif de Dieu. Et Jean-Baptiste les invite à changer de vie et à changer la vie. Le baptême est une purification des péchés. Une immersion dans l'eau qui lave. « Lave-moi et je serai plus blanc que neige », dit le psalmiste. Le mot baptême signifie plonger, immerger. Ce serait donc un retour à la propreté physique, morale et spirituelle.
Il est question dans nos textes ici de désert. Je voudrais, avant de poursuivre la réflexion sur le baptême, m'attarder avec vous quelques instants sur ce que représente le désert. Le désert dont il s'agit dans la Bible ne sont pas comparables aux océans de sable qu'évoque le plus souvent ce terme. Certes, les grands déserts du Sinaï ou le désert sino-syro-arabe réservent d'importantes étendues de sable, parfaitement stériles, et le Negev ou le désert de Juda lui-même, des zones où le sel et le sable ne font place qu'aux rocs nus, mais le nom de désert est facilement donné à toute région inculte, d'aspect sauvage, à la végétation naturelle pauvre, au point d'eau rare et donc peu propice à l'habitat sédentaire. Considéré comme lieu maudit en raison de sa désolation et du mystère qui défend l'hostilité de la nature, le désert est donné pour le domaine des esprits mauvais et d'une faune qui tient d'eux. Asmodée, Lilith, Satyre et autres démons s'y mêlent aux bêtes inquiétantes, féroces ou répugnantes qui iraient rejoindre les boucs voués à Azazel, chargé des péchés d'Israël. Ce fameux bouc émissaire, l'expression est restée jusqu'à nos jours. Mais envisagé sous un autre aspect, les mêmes défenses naturelles protègent ceux qui s'y fient contre les entreprises d'ennemis éventuels. Le désert est alors regardé comme un lieu de refuge. David y fuit la haine de Saül, Élie la colère de Jézabel, Mattathias et ses fils la persécution d'Antiochus IV Épiphane. Le psalmiste les menace et les coups de ses assaillants. La femme de l'Apocalypse, l'attaque du dragon. Et le désert, enfin, par l'isolement relatif et l'austérité de vie qu'il impose, incite à la méditation salutaire et rapproche de Dieu. Il devient alors le lieu idéal de la retraite spirituelle. C'est au désert que Yahvé se manifeste à Moïse et à son peuple et fait subir à celui-ci une cure de 40 années. C'est le séjour sous les tentes du désert qu'il rappelle par sa voix de son prophète pour invoquer l'intimité qui ramènera la réconciliation d'Israël avec lui après le pardon des fautes expiées dans l'exil. Élie avait fui au désert pour sauver sa vie. Il y rencontrera Dieu. Jean-Baptiste se prépare à sa mission dans des endroits déserts et c'est du désert que viendra son message annonçant l'approche du royaume des cieux. Avant d'entreprendre sa prédication, le Christ lui aussi, poussé par l'Esprit, se retire au désert. Il est servi par les anges et tenté par le diable, dont l'évocation renvoie à la réputation la plus sinistre qui fut faite d'abord au lieu désert.
Radio Grand Ciel, l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, à la technique Simon Martin, et nous écoutons le sextoire de harpe de Paris. Ainsi, nous avons présenté Jésus, Jean-Baptiste et le baptême dans le désert. Et nous allons maintenant les réunir et découvrir les transformations profondes qui vont irrémédiablement se produire. Jean-Baptiste voit Jésus venir vers lui au bord du Jourdain. Il lève la tête et le regarde. Il le connaît, c'est son cousin, mais il sait aussi qui il est. Mais il ne comprend pas la demande de Jésus, en qui il reconnaît le maître tant attendu, qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le maître dont il ne se sent même pas digne d'ôter les sandales. Et pourtant, ôter les sandales était normalement un travail réservé à l'esclave. Et Jésus, pourtant, lui demande le baptême avec insistance.
Jean-Baptiste réagit. « Comme homme pécheur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Pour Matthieu, le fait que Jésus puisse se faire baptiser par Jean-Baptiste, habillé en homme des cavernes, est un scandale. Mais Jésus insiste encore. « Abandonne ta vision purificatrice du baptême. Il nous convient d'accomplir toute justice. » Et alors Jésus renverse le sens du baptême pratiqué jusqu'alors. Il ne s'agit plus simplement d'un retour en arrière, d'une purification des péchés, mais d'un vrai bond en avant, un bond vers Dieu et vers les hommes, dans l'accomplissement de l'amour et de la justice, par-delà la mort même. Car la foi n'est pas une évasion, elle se vit au cœur même de l'existence.
Ainsi, la boucle se referme. Jésus de père en fils par sa naissance, Jésus de fils en frère pour nous par son humanité, et Jésus de fils en père par l'Esprit. L'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe, et une voix venant des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et Jésus nous invite, nous aussi, au baptême d'eau et de feu, qui nous permet de naître à nouveau et d'entrer nous-mêmes dans la vie de Dieu, et de découvrir que Dieu nous aime, chacun de nous, comme un Père. Avec le secours de l'Esprit-Saint, il nous faut naître à une vie nouvelle.
Après son baptême, Jésus se retire dans le désert 40 jours et 40 nuits. Et c'est là, dans la solitude, face à Dieu, face à lui-même, que son désir d'accomplir la justice de Dieu, d'être son serviteur et le serviteur des hommes jusqu'au bout, prend racine et s'affermit. Le baptême de Jésus dans le Jourdain est véritablement une transformation radicale. Jésus transforme le baptême, qui n'est plus une simple purification des péchés, mais une véritable conversion, un bond en avant vers Dieu.
Et le baptême transforme Jésus. Jésus sort de l'enfance et entre dans sa mission de Fils de Dieu, fait homme, et marqué lors du baptême par l'onction de Dieu, disent les Actes des Apôtres. L'onction est l'action de consacrer, de marquer du sceau de Dieu et donner une dimension divine au Fils de l'homme. La colombe qui descend du ciel, symbole de l'Esprit de Dieu, n'est pas la colombe qui ramène dans l'arche de Noé le rameau d'olivier, annonce de la baisse des eaux du déluge et de la réapparition de la terre et de ses arbres, message d'espoir. La colombe ici est l'image de l'amour de Dieu.
Et Jésus crée une relation d'amour. Il nomme Dieu Père. Il désigne les êtres humains comme étant enfants du même Père, tous frères et sœurs. Il instaure une nouvelle fraternité. Dire le Notre Père tous ensemble nous oblige, chacun, chacune, à poser des gestes de solidarité pour lesquels les êtres humains se reconnaissent de la même famille.
Thank you. l'Église, désormais, ne ferme plus ce que Jésus a ouvert, qu'elle ne parle plus du péché pour culpabiliser, mais pour libérer, qu'elle ne limite plus la solidarité à une classe d'hommes, mais l'étend à tous et dans toutes les parties du monde, qu'elle apprenne à ses membres à accomplir comme Jésus ce qui est juste, c'est-à-dire à partager et à être solidaire. C'est cela la justice. Et non pas ce racisme sournois, cet antisémitisme, cette xénophobie que nous rencontrons trop souvent au sein même de nos communautés chrétiennes. Ce baptême de la solidarité que Jésus a voulu recevoir, puisse l'Église le pratiquer de la même façon.
Tel était notre évangile aujourd'hui. Au milieu de toutes nos préoccupations et de toutes nos espérances. Un évangile de la solidarité et du partage. Un évangile de pardon absolu de nos péchés, afin que nous apprenions nous-mêmes à pardonner le péché de notre prochain ou de notre ennemi. Un évangile de la grâce, un évangile de la vie. Puissions-nous recevoir cette histoire évangélique comme un cadeau de nouvel an en ce début d'année 2019, comme une guérison et comme une promesse, comme une assurance et comme une consolation, comme une espérance au milieu de nos préoccupations les plus graves.
Puissions-nous aller avec Jésus au bord du Jourdain aujourd'hui pour recevoir le même baptême que lui? Puissions-nous, avec le baptême de la repentance, recevoir le baptême de l'Esprit aussi. Jésus nous dit « Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Voici, l'Esprit vint sur lui comme une colombe. Son Esprit vient sur chacun de nous. Son Esprit et son amour sont les deux ailes qui nous permettent d'avoir dans notre combat la paix dans la souffrance, la sérénité dans le deuil, la victoire dans l'épreuve et dans la mort, l'éternité de la vie.
Ne dites pas que cette espérance est trop lourde à porter, quand c'est elle qui nous permet, à nous, et qui permettra à notre humanité de voler, sans nous évader, plus haut que toutes les détresses de la terre. Amen.
Amen.
Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, rue Saint-Thomas à Chartres. Mais je voudrais surtout vous parler de la semaine de l'unité des chrétiens. Et vous êtes invités tous, le mardi 22 janvier, à un dîner œcuménique pour fêter justement cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ce dîner sera l'occasion de mieux faire connaissance entre chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques et orthodoxes. Donc, nous vous donnons rendez-vous le mardi 22 janvier à 19h30 à l'église Saint-Pantaléon de Lucé. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt. Thank you.
Thank you.